Bonsoir, trois thèmes sont retenus pour la tribune de la presse de ce soir. Suivi des accords d'été à l'est du pays après le fin d'été, première réunion depuis le 12 mai dernier à Kinshasa entre le gouvernement et les délégués des groupes armés du Nord et du Sud-Kivu. Promulgation le 7 mai dernier par le chef de l'État de la loi sur l'amnistie pour faits insurrectionnels et faits de guerre dans le Nord et le Sud-Kivu. Et enfin, réforme des entreprises publiques. L'intersyndicale a demandé le 13 mai dernier à Kinshasa, à la ministre du Portefeuille, de pourvoir à l'exécution de la décision du Premier ministre sur la conversion, notamment des entreprises publiques en sociétés commerciales. Trois confrères sont avec moi dans cette émission pour en parler. Il s'agit de Bellard Mouilly, directeur général de la télévision Africa TV, émettant depuis Kinshasa. Diana Gikoupa, directeur des publications du quotidien L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Et Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni, au Nord Kivu. Avant d'aborder le débat de ce soir, écoutons d'abord la revue de presse avec Alain Hérung pour voir comment les journaux quinois ont analysé les trois thèmes retenus ce soir.
Bonsoir. Premier thème de ce journal des journaux, suivi des accords de paix à l'est du pays. Après le CNDP, première réunion depuis le 12 mai dernier à Kinshasa entre le gouvernement et les délégués des groupes armés du Nord et Sud Kivu. La tempête des tropiques titre, les ex-rebelles rappellent leurs revendications. Selon leur cahier de charge, les groupes armés attendent entre autres la légalisation de leur parti. Alors que le palmarès note à sa une, le CNDP en difficulté devant l'ONU. L'intégration au sein du gouvernement central pourrait devenir hypothétique. Deuxième thème de cette revue de presse, promulgation le 7 mai dernier par le chef de l'État de la loi sur l'amnistie pour les faits insurrectionnels et de guerre dans le Nord et Sud Kivu. La tempête des tropiques note, loi sur l'amnistie au Kivu, le cas de Bosco Ntaganda dérange. Ouhuru affirme quant à lui, la réconciliation nationale s'impose. Dernier sujet de ce journal des journaux, réforme des entreprises publiques. L'intersyndicale a demandé le 13 mai dernier à Kinshasa, à la ministre du Porto, de surseoir à l'exécution de la décision du Premier ministre sur la conversion notamment des entreprises publiques en sociétés commerciales. Revenant sur cette rencontre, l'avenir dans sa rubrique économique affiche l'intersyndicale éclairée sur la réforme des entreprises publiques. Le phare éclairant la lanterne rassure, portefeuille de l'État, pas de panique.
Merci Alain Hérung pour cette revue de presse. On va juste placer un petit commentaire par rapport à cette revue que nous venons de suivre. On commence avec vous, Diana Gikoupa. Vous êtes directeur de publication du quotidien L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Et quelle analyse vous faites de cette revue de presse? La presse écrite a-t-elle été objective dans sa façon d'aborder les différentes informations?
Oui, la presse, surtout que la revue de la presse a donné les grands titres. Je pense que ce sont des titres qui reflètent l'actualité de ce jour. Même si, quelque part, il y a des titres qui ne reflètent pas tout à fait l'analyse, qui ne reflètent pas la réalité, surtout en ce qui concerne les groupes armés. Bon. Et je pense que le reste, c'est objectif.
Oui, Bellard Mouilly, directeur général de la télévision Africa TV, émettant depuis Kinshasa. Y a-t-il, selon vous, une information importante qui n'a pas été évoquée dans la presse cette semaine?
Bon, disons que ça peut être évoqué, mais pas avec l'intensité qu'il aurait fallu. Parce que quand je vois un peu les grands titres qui viennent d'être développés par notre confrère, je n'ai pas vu le massacre qui a eu au Nord Kivu, en territoire de Walikale, où des dizaines de Congolais ont été massacrés
par
l'FDLR, et plus d'une centaine de maisons incendiées. C'est vraiment un grand massacre. Je me dis, est-ce que avons-nous fini par nous habituer tellement à ces massacres qu'il y a dans l'Est, au point que ça devient un fait divers? Non, ça ne doit pas devenir un fait divers. Lorsqu'une soixantaine de personnes, on a parlé de 62 exactement, sont massacrées comme ça, arrachées à la vie par des bandits comme le FDLR, ça doit vraiment nous interpeller, ça devrait vraiment être plus traité avec beaucoup plus d'intensité par la presse qui s'en a été cette semaine.
Ok. Nicodème Bakoleta, rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Comment votre rédaction a analysé l'actualité de cette semaine?
Oui, justement, ce sont les grands points de l'actualité que vous venez de citer là. Et comme vous me demandez de placer un mot en rapport avec cette décision, ça a été traité. Moi, plutôt, je dois louer ces confrères parce que cela montre d'abord qu'il y a une liberté de la presse, parce qu'il y a des sujets. Il y a une décennie, pas le traité comme ça aux médias, mais aujourd'hui, c'est un peu à la presse, c'est une bonne chose. C'est un pas de plus aussi vers la liberté de la presse, de l'information, et de la presse aussi.
Nicodème Bacoletta, on n'arrive pas à bien vous saisir.
Alors, j'ai pas de dire que. Pardon ?
Essayez de vous déplacer parce qu'on n'arrive pas à bien vous saisir.
Ah oui, je disais encore que ce sont des grands points de l'actualité qui ont été évoqués par ses confrères. Ce sont des grands points d'actualité. Donc, pour moi, je trouve qu'il y a un pas de plus vers la liberté de la presse comme des sujets aussi importants comme ceux qui ont été évoqués sont déjà traités dans les médias sans être inquiétés. C'est déjà une bonne chose, c'est un pas plus vers la liberté de la presse.
Merci Nicodème Bacoletta. Premier thème de la tribune de ce soir. Suivi des accords d'été à l'est du pays, après le CNDP, première réunion depuis le 12 mai dernier à Kinshasa, entre le gouvernement et les délégués des groupes armés du Nord et du Sud Kivu. Notez d'abord que ces assises portent sur des discussions des modalités de mise en œuvre des accords signés entre les deux parties, gouvernement et délégués des groupes armés du Nord et du Sud Kivu à Goma, le 23 mars dernier. Les travaux sont en cours et la séance d'aujourd'hui vendredi est consacrée à l'examen des projets intégrateurs pour la stabilisation et la reconstruction des zones sinistrées par la guerre. Un autre point abordé aujourd'hui, c'est la mise en place des comités locaux de conciliation. Selon les rapporteurs du comité national de suivi, l'abbé Jean Bosco Bala, les travaux pourraient se poursuivre demain samedi. Au deuxième jour de la réunion, donc le 13 mai dernier, les partis ont examiné la participation des groupes armés à la vie politique, la procédure à suivre dans la mutation en parti politique, les clauses de la loi sur l'amnistie et les critères retenus pour la mise en liberté des prisonniers. La deuxième rencontre entre les gouvernements et les groupes armés de cette partie du pays, après celle tenue la semaine dernière avec le CNDP, toujours à Kinshasa. Pendant que les travaux se tiennent à Kinshasa, les FDLR multiplient des attaques contre les populations civiles au Nord Kivu. Nicodème Bacoletta, vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Accordez-vous une chance à ces processus?
En fait, on donne l'état au temps. C'est d'abord une bonne chose quand les dirigeants se mettent sur une même table pour trouver des solutions à ce qui les divise. Aujourd'hui, on essaie, le CNDP, d'assumer les calumets de la paix et discute avec le gouvernement comme un parti politique et non comme une branche armée. Et cela étant, il faut savoir que dans toute négociation, on y va soit en position de force, soit en position de faiblesse. Alors, je ne sais pas qui du gouvernement ou du CNDP discute en position de force, mais ce que je sais, c'est que les délégués du CNDP se sont déplacés jusqu'à Kinshasa pour discuter avec le gouvernement. On écoute ça et là, que le CNDP discute pour que ses membres trouvent des postes dans le gouvernement. Ben, ça, ce sont des accords politiques qui ne doivent pas laisser en compte les crises de la population. La population qui a vécu dans sa chair les affres même de la rébellion, qui compte plusieurs victimes de suite de cette rébellion. Je vais parler de ces femmes et filles violées, de ces familles déplacées qui se sont retrouvées et gratuitement dans des cas de déplacés, et puis encore de ces familles qui ont perdu leurs membres lâchement tués dans des cas de déplacés ou dans leur village. Donc toutes ces personnes ont des plaisirs de suite de cette rébellion et qui verront de suite à un accord politique les dirigeants de ceux qui leur rendaient la vie difficile occupée des commandes de certains postes dans les institutions. En tout cas, ils trouveront que cet accord n'est ni plus ni moins qu'une monterie et de ce fait, se perdront toute estime, toute crédit au gouvernement et qui aurait craché dans leur plaie. Mais il faut aussi dire, ça sera quel exemple parce qu'on a encore fait la mémoire, les SCD, les MLC, les SCDK et les autres ont pris les armes et se sont retrouvés dans les gouvernements d'Union nationale qu'on appelait un six-quatre. Et ceux, il y a ceux qui ont accepté, il y a ceux qui ont occupé des postes, des grandes responsabilités dans ce gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement pris les armes et le gouvernement n'a pas été en mesure de mater la rébellion. Ils ont négocié les résultats ministères, ils ont des postes dans le gouvernement. Je veux dire qu'aujourd'hui, à quelques rares exceptions près, c'est le même schéma que le CNDP a suivi. On a pris les armes, on occupe le territoire, on résiste aux forces réalistes, on négocie, après, on a des postes. Voilà donc, ce n'est pas un bel exemple que le gouvernement va donner si alors c'est conditionnel, s'il a accordé des postes très importants pour les membres de CNDP.
Oui, Bernard Mouilly, quel peut être l'impact de ces assises sur le retour effectif de la paix dans cette partie du pays?
Oui, notre confrère de Béni, je crois, il a répondu à la question.
Nicodème Bakoleta.
Oui, Nicodème Bakoleta. Répondant à la question concernant le CNDP, il faut que ça, je crois, concerne le groupe armé plutôt. Je crois qu'il y a un peu une nuance là. Il y a deux groupes de travail, il y a plusieurs commissions de suivi. CNDP gouvernement, c'est à part, nous en avons parlé la semaine passée, et cette fois-ci, maintenant, vous nous parlez du gouvernement groupes armés. C'est bien ça de ça qu'il est question.
Oui, selon les rapporteurs du Comité national de suivi, oui. L'abbé Jean Bosco Bala, les travaux se poursuivent de façon simultanée. Entre les groupes armés du Nord et du Kivu d'un côté, et le CNDP gouvernement de l'autre.
Ah, oui. Qu'est-ce que vous voulez bien savoir?
Oui, je voudrais savoir, selon vous, quel peut être l'impact de ces assises sur le retour effectif de la paix dans cette partie du pays?
Bien, je crois franchement que ça va bien se passer. D'autant plus que il n'y a pas de grande raison que ça puisse échouer. Le CNDP dont il est question aujourd'hui, c'est vrai que ça porte le nom du CNDP. Ce n'est pas le CNDP original, c'est l'original, si je peux dire. Celui qui a donné vraiment du fil à retordre au gouvernement avec Laurent Kondamigo à sa tête. Ce n'est pas celui-ci. Laurent Kondamigo a été sacrifié suite à un accord régional intervenu entre le gouvernement du Congo et le gouvernement du Rwanda. Alors, on a monté de toutes pièces un autre CNDP, dirigé par des hommes de pacotis, si je peux me permettre de le dire ainsi, qui ne peuvent pas, comment ils peuvent oser tenir tête à un gouvernement qui les a placés à la tête du CNDP. Ils valent rien, ils ne représentent rien, ils représentent le CNDP. Ça va bien marcher. C'est vrai qu'ils pourront mettre en avant quelques revendications valables qu'avait le CNDP originel, et bien que le gouvernement trouvait aussi valables qu'on peut rencontrer. Ça va bien se passer. Concernant les groupes armés eux-mêmes, mais n'oubliez pas que les groupes armés, c'est des maïmaï qui, pendant la transition, ont eu aussi des postes dans le gouvernement. Et pourquoi ils ont continué à faire demeurant en marge de la société nationale? Pourquoi? Il y a eu des maïmaï à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, du Sénat, députés, sénateurs, ministres, vice-ministres, il y a eu des maïmaï partout. Ils ont fait des partis politiques qui ont eu des élus à l'Assemblée nationale. Ici, nous avons le parti MMM de, pardonnez, Kaliba, il y a UPRDI de Moussou Bonane, il y a l'autre maïmaï de Nord Kivu avec Madame Boutendo, je crois. Ils sont des élus, ici, bien élus. Alors, s'il y en a d'autres qui étaient restants dehors, le gouvernement les tolérait parce que il les utilisait pour combattre Laurent Kunda, notamment. Il y a même d'autres groupes armés qu'on a fondé de toutes pièces pour combattre Laurent Kunda, comme les Tarico, par exemple. On a fondé de
toutes pièces. Vous avez des preuves selon lesquelles le gouvernement utilisait ses maïmaï pour combattre les
Tarico? Ils se battaient aux côtés du gouvernement. C'est pas, c'était un secret positionnel. Les Tarico portaient l'uniforme. C'est une forme fardée. J'ai suivi une émission passée ici où vous vous demandez comment est-ce que l'FDLR porte les mêmes uniformes que l'armée gouvernementale. Mais l'FDLR est allié au PARECO, PARECO qui avait l'uniforme FARDC. Comment voulez-vous que le PARECO ne transmette pas cette uniforme au FDLR?
Est-ce que c'est le seul facteur qui vous pousse à affirmer que ces maïmaï ont été utilisés par le gouvernement?
Bien, non, si, ils l'ont dit même plusieurs fois d'ailleurs. Ils ont dit nous nous battons pour défendre le pays aux côtés du gouvernement. L'ennemi de votre ennemi, c'est pas votre ami, dites-moi un peu. C'est objectif, non? C'est un peu comme tous les mouvements en Côte d'Ivoire, là, Front des libérations du Grand Ouest, tout ça. Ils se battaient aux côtés du gouvernement contre les rébellions du Nord. Vous voyez? Alors, ils ne sont pas considérés comme la rébellion du Nord. C'est un peu, quelque part, les partisans du gouvernement. Alors, ils ne peuvent pas tenir tête au gouvernement. Ils diront peut-être certaines choses. Ils ont des revendications à mettre en avant. Je crois qu'on va les rencontrer. Ça va bien se passer. Ce n'est pas une mauvaise chose.
Oui, donc, Bernard Mouilly est quelque peu pessimiste.
Non, non. Je crois que ça va bien se passer. Mais ce que je précise, c'est qu'il n'y a pas de gens que ça ne puisse pas bien se passer. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement une même famille qui discute. C'est ça, mon point de vue.
Diana Dikoupa, vous êtes directeur des publications du quotidien L'Avenir paraissant à Kinshasa. Deux brigades de Maïmaï Kifoafoa viennent de regagner leur fief depuis mercredi dernier pour, selon eux, faire face à la montée de la criminalité des FDLR. Cela ne voudrait pas dire que les populations sont abandonnées à leur propre sort, que ceux qui sont censés les protéger ne jouent pas leur rôle.
Oui, je répondrai à votre question tout en faisant une petite mise au point en disant que on ne peut pas identifier un mouvement à une seule personne. Ukunda peut être ce qu'il a été, il a une grande taille, il a un verbe haut, mais il ne pouvait pas faire le cercle d'épée seul. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'une Kunda est extirpée du mouvement, que le mouvement perd son authenticité, le mouvement disparaît. Ça, c'est tout à fait congolais. Donc, où tout est à la taille d'un homme. Comment Kunda pouvait tenir toute une partie de Rutshuru, finalement, tout Rutshuru et Masisi, lui seul, sans ceux qui sont aujourd'hui contre lui. Ça, c'est
là, vous répondez à Bélard.
Oui, mais justement, c'est pour dire que ceux qui sont aujourd'hui en face du gouvernement, c'est vraiment les membres, ce sont les membres du CNDP sans Kunda Batoire, parce que Kunda Batoire, en lui, ce n'était pas l'homme mouvement, c'était un individu, comme tant d'autres, quelque sorte, parce qu'il a été placé à la tête par les autres. Il n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter pour devenir chef du mouvement. Et alors, aussi pour, j'aimerais dire que je ne comprends pas que le gouvernement, maintenant, puisse avoir à discuter d'un côté avec les groupes armés et de l'autre avec le CNDP, alors qu'ils devaient discuter avec tout le monde ensemble, comme cela était le cas autrefois à Sanssouci. Parce que le CNDP est maintenant donne l'impression de tirer le gouvernement par le bout du nez, parce que dès le départ, c'est là que ça contredit encore mon ami Bélard qui disait qu'il y a une différence, parce que le CNDP tenait aux négociations à part. Il ne voulait pas négocier ensemble avec des groupes armés.
Ce n'est pas parce que c'est ce mouvement-là qui faisait beaucoup plus de mal au gouvernement.
Et tout à fait, ce n'est que normal. Lorsque a dit que le gouvernement était avec les Maïmaï, mais peut-être par le même objectif, qu'est-ce que Maïmaï par définition? Nous connaissons le mouvement Maïmaï, c'est le mouvement des autochtones qui se sont organisés pour lutter contre ce qu'ils appellent les envahisseurs. Et les envahisseurs étaient identifiés aux soldats rwandais et consorts, et par ricochet, on est allé jusqu'à toute personne qui a tel faciès est rwandais. Et c'était devenu la lutte congolaise entre ces gens dans ce sens-là. Ce n'est que normal que sur ce point-là, l'objectif, qu'il soit avec le gouvernement.
Mais les Maïmaï qui n'hésitent pas à commettre des exactions contre la population.
Tout à fait, vous vous êtes rendu compte qu'au Nord Katanga, les Maïmaï qui ont été armés par le gouvernement à l'époque, parce qu'il fallait l'autodéfense populaire. Et là, c'était un cas palpable. Mais après, c'était devenu un cas de lutte avec le gouvernement pour le désarmer jusqu'à ce que le gouvernement ait utilisé les grands moyens pour y mettre fin. Donc, ce n'est pas toujours dit qu'entre Maïmaï et le gouvernement, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Non. Ce sont des gens qui ont pris les armes. Et aujourd'hui, Bernard lui-même l'a démontré. Les Maïmaï, aujourd'hui, même à l'époque, j'ai entendu le RCD dire que lui aussi, là, c'est Maïmaï. Je me souviens au début du dialogue que pendant que nous allions au dialogue intercongolais, on ne voulait pas que les Maïmaï soient dit non, chaque mouvement a ses Maïmaï. Ce qui était une contradiction, une hérésie historique. Parce que les Maïmaï ne peuvent pas être avec ceux qui étaient avec les Rwandais. C'était une contradiction où c'était des Maïmaï, des prêtres. Non. Alors, c'est pour dire que le mouvement là qui vient de sortir aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement s'est mis à discuter longtemps avec des gens qui on devrait mettre un seul problème sur la table, se désengager, être intégré, et après le reste, l'intégration, la pacification de la partie qui est occupée, c'est une affaire du gouvernement. Qu'est-ce que c'est hors la loi? Ces gens qui ont créé les autres ont-ils, qu'est-ce qu'ils ont comme bon sentiment, comme méthode à proposer, à part ce qu'ils ont fait pendant tout ce temps-là? Moi, je pense que c'est le gouvernement qui encourage, et demain, il va y avoir davantage de groupes qui vont naître et qui vont chercher à venir à Kinshasa, parce que tout le monde sait qu'en allant à Kinshasa, on ne va pas parler pacification, tout ça, c'est un habillage, mais on va parler à entrer dans les institutions. Et c'est pourquoi je pense aussi qu'on doit clarifier ce terme « participer à la vie politique ». Nous tous, Bélard et moi, en propre faisant cette émission, nous participons à la vie politique. Est-ce que nous avons besoin de négociations d'abord avec le gouvernement pour le faire?
Merci. Nicodème Bakoleta, vous intervenez depuis Béni. Comment analysez-vous le fait que les Maïmaï qui font foi regagnent leur fief pour selon eux faire face à la montée de la criminalité des FLR? Est-ce que par cet acte-là, on ne peut pas dire que les populations sont abandonnées à leur propre sort, que ceux qui sont censés les protéger ne jouent pas leur rôle?
Justement, ça, c'est la faiblesse de l'opération menée contre les FDLR, l'opération menée, l'armée congolaise et l'armée rwandaise ont mené une opération contre les FDLR dans la province de Kivu. Donc, c'est justement la faiblesse de cette opération. Quand on a mené l'opération contre les FDLR, on a juste reculé ces FDLR à quelques kilomètres dans la brousse. Ils se sont cachés parce qu'ils vivent là depuis longtemps. Et quand l'opération a pris fin, voyez-vous, les FDLR se venge contre la population. Et je trouve que ces Maïmaïs qui ont toujours revendiqué se protéger la population, ils ont trouvé un prétexte ou un motif maintenant pour sortir de la brousse, pour dire voilà la population, notre peuple, voilà, est menacée par les FDLR et l'armée censée le protéger n'arrive pas à tenir les coups. Voilà, nous allons maintenant protéger la population. Mais on sait aussi que ces Maïmaïs n'ont pas toutes les formations requises pour mener à bien, pour protéger la population. Et tout ça, c'est à mon sens la faiblesse même de l'armée congolaise qui doit être restructurée et bien organisée.
Merci Nicodème Bafoleta. Nous passons au deuxième thème de notre débat. Promulgation le 7 mai dernier par le chef de l'État de la loi sur l'amnistie pour faits insurrectionnels et faits de guerre dans le nord et sud Kivu. La loi d'amnistie pour faits insurrectionnels et de guerre commis dans le nord et sud Kivu a été promulguée par le président Joseph Kabila jeudi 7 mai. L'information a été rendue publique le week-end dernier. Cette loi est le résultat des accords signés entre le gouvernement et les groupes armés actifs au nord et au sud Kivu dans le cadre du processus de paix dans cette région. Elle couvre la période comprise entre juin 2003 et jusqu'à la date de sa promulgation. Cette loi a été votée sur fond des mécontentements, notamment de l'opposition. Quelles en sont les retombées? Élément de réponse avec Marie-Chantal Lumba.
Je reviens à la justice après étude des cas de déterminer quelles sont les personnes amnistiables. Il faut souligner que l'amnistie enlève le caractère infractionnel de l'acte, mais n'annule pas la responsabilité civile. On se souviendra que la loi d'amnistie avait soulevé des controverses entre les parlementaires dans les deux chambres. Par exemple, à l'Assemblée nationale, une centaine de députés, la plupart de l'opposition, avaient boycotté le vote de ce projet. Parmi les points de divergence, on peut citer celui relatif au caractère discriminatoire soulevé par certains parlementaires. Ces derniers auraient en effet souhaité que ce projet de loi couvre l'ensemble du territoire et non seulement les deux Kivu. D'autres parlementaires estiment qu'il y a une possibilité de résoudre ce problème. Ils proposent que l'on initie d'autres lois d'amnistie. L'autre problème soulevé par une partie des parlementaires, le vice de procédure dans l'adoption de ce projet. Cette loi adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale avait été rejetée au Sénat. Il aurait fallu, d'après eux, que le projet de loi soit renvoyé au gouvernement et non à la commission mixte paritaire Sénat-Assemblée nationale. À ce sujet, les députés de l'opposition comptent introduire un recours. D'autres parlementaires, sur ce même cas, ont fait une lecture totalement contraire.
Première réaction enregistrée après la promulgation de la loi sur l'amnistie par les chefs de l'État, c'est celle des ONG de défense des droits de l'homme. La voix des sans-voix redoute que ce ne soit une façon de consacrer l'impunité. Pour cette ONG, cette loi, qui ne concerne qu'une partie du pays, ne garantit pas du tout la justice équitable. Bélard Mbouyi, l'opposition parlementaire abonde dans le même sens et qualifie cette loi de discriminatoire. Elle aurait souhaité que cette loi ait un caractère général au lieu de ne concerner que les provinces du sud et du nord Kivu. Est-ce une loi discriminatoire?
Bien sûr. Vous savez, depuis quelques temps, nous sommes en train de nous battre avec l'énergie du désespoir pour inventer la roue. Donc nous faisons de nous-mêmes la risée du monde entier. L'amnistie, c'est une loi d'ordre général. Existe-t-il au cours de l'histoire un seul exemple dans un pays où on a vu une loi d'amnistie être provinciale, régionalement partielle? Attends, j'ai vu ça où? C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Vous savez, ceux qui font ça, donc, disons les choses telles qu'elles sont, les gens de l'ANP, ils sont en train de transformer notre Assemblée nationale en un royaume de n'importe quoi où l'on fait adopter n'importe quelle loi, n'importe quel texte, n'importe quelle procédure. Vous pouvez vous rendre compte qu'on transmet quel message au peuple du Congo? On est en train de dire aux gens du Congo, vous savez, les gens qui ont pris des canons, ont tiré des obus sur des villages, on peut leur pardonner leurs fautes. Ceux qui ont pris, parce qu'ils sont des deux Kivu, ceux qui ont pris des pierres, les ont lancées sur la police au bas Congo, eux, on doit les condamner. C'est ça qu'on est en train de dire à notre peuple. Mais c'est tellement grave. Vous savez, à l'issue des élections, le pays a été pratiquement coupé en deux. L'Est votant pour Kabila et l'Ouest votant pour Bemba. Aujourd'hui, les gens de l'Ouest en leur majorité, ont la conviction que Kabila a plus de compréhension pour ses frères Swahili. C'est comme ça qu'on dit ça à Kinshasa. Et lorsque, au Bas-Congo, il y a un état presque insurrectionnel avec cette désobéissance du mouvement Bundundia Congo, on va, on envoie l'armée, elle réprime les gens, selon l'ONU, ça fait 200 morts, selon Human Rights Watch, ça fait plus de 500 morts. Mais non, ce sont les victimes qu'on traduit devant les tribunaux, on est en train de les juger, on les condamne à la prison. Mais ceux qui ont humilié l'armée pendant des années, on dit non, non, vous, on vous amnistie, c'est fini. Mieux, venez entrer au gouvernement.
N'est-ce pas que cette fois a été exigée à la conférence de Goma et l'Assemblée mettre tout le monde d'accord?
Mais non, non, oui, écoutez, il y a oui et non, ça veut dire quoi? Lorsque la conférence amène se tient, on dit non, non, il faut une loi d'amnistie parce que ceux pour qui nous sommes venus parler ici sont dans un état insurrectionnel. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand on fera cette loi d'amnistie, vu son caractère général, elle répandra son action sur d'autres personnes ayant commis les faits de même nature. C'est ça le problème avec la loi. On n'allait pas dire non, non, parce qu'on avait réclamé à Goma, on va la limiter uniquement aux gens de Goma. Non, ça doit toucher les gens qui sont dans une même situation que ceux qui étaient à Goma. Et même que ce sont beaucoup moins, un peu plus moindres d'ailleurs, comme les condamnés de la Pentecôte, les gens du Bundundia Congo, Bas-Congo, etc., etc. Et ça, c'est extrêmement grave. On ne va pas continuer à diviser notre peuple. On ne va pas continuer à frustrer les gens parce qu'ils sont de l'Ouest. Ils doivent être considérés comme quantité négligeable dans ce pays. Sauf les gens de l'Est, voilà les gens qui comptent dans ce pays. Non, c'est...
Diana Dikoupa, la loi sur l'amnistie, est-ce une loi discriminatoire?
Non, tout à fait non. Et je pense que je prendrai le contre-pied de ce que mon ami Bellard dit. Une loi d'amnistie est par principe partielle. Elle concerne, elle est circonscrite d'abord par le fait que c'est dans le temps et concernant un certain nombre d'infractions. Cela en fait une loi partielle. Ça ne peut pas être général. Lorsqu'on généralise une loi, on va généraliser quoi, partant de quelles infractions? Parce que les infractions sont déterminées, la période est déterminée et l'espace aussi est déterminé. On ne peut pas prendre une loi d'amnistie générale pour des faits insurrectionnels qui se sont passés dans deux provinces jusqu'à aujourd'hui. Posez la question aux gens de Bundundia Congo. Lisez tout ce qu'il y a eu comme littérature sur cette histoire de Bundundia Congo. Personne n'a jamais dit qu'il y avait insurrection au Bas-Congo. Le Bundundia Congo lui-même ne dit jamais qu'il avait pris les armes contre son gouvernement. Et donc aujourd'hui, vous allez dire aux gens de Bundundia Congo, vous êtes amnistiés pour quelle infraction que nous avons commis.
Vous n'allez pas dire que j'ai accepté ça. Vous n'allez pas dire qu'à l'Ouest, il n'y a pas des gens qui sont incarcérés pour des faits insurrectionnels et des.
Non, il y a des gens qui sont incarcérés pour tel ou tel autre. Mais pour les faits insurrectionnels, c'est-à-dire quoi? Un groupe de gens qui ont pris les armes pour, dans le but de renverser le pouvoir ou de mettre à mal le pouvoir, je ne vois pas à l'Ouest, parce que même, j'ai la parole. Oui.
Pourquoi est-ce que vous Congo? C'est quoi le mobile qui utilise
les J'en arrive. Et c'est pour dire que les Bundundia Congo ont été condamnés. Et le mouvement, d'abord, le mouvement a été dissous pour fait que avoir ces documents juridiques, il n'y a pas d'accident. Et puis il y a la constitution congolaise qui interdit qu'il y ait un mouvement politico-religieux. Ce n'est pas pour un parti politique, il ne peut pas être à caractère religieux. La constitution l'interdit. Et Bundundia Congo se dit mouvement politico-religieux. Et Bundundia Congo refuse, même lorsque la presse dit militaro, il refuse. Donc comment on peut faire l'insurrection au point d'être mis au même côté que les CNDP si on n'a jamais pris les armes? Donc on ne peut pas mêler ceux qui mêlent justement le Bundundia Congo dans cette situation. Ceux-là qui veulent faire cette distinction entre l'Est et l'Ouest. La justice n'a pas de justice Est-Ouest. Vous l'avez dit vous-même que la loi d'amnistie ici est la conséquence, c'est une des résolutions de la conférence de Goma. Et c'est tout à fait logique que ça concerne Goma, le cadre dans lequel cette loi d'amnistie a été demandée.
Merci. Nicodème Bakoleta, je rappelle que vous intervenez depuis Beni, au Nord Kivu. La promulgation de cette loi, la loi sur l'amnistie, est-elle une façon de consacrer l'impunité comme le pense l'ONG Voix des Sans Voix?
Bon, je pense que cette loi, je ne dirais pas consacrer l'impunité, mais c'est peut-être le prix qu'il faut payer pour retrouver la paix ici, à l'est du pays notamment. Depuis la conférence de Goma, on attendait cette loi, donc aujourd'hui, elle est là, l'amnistie est là. L'amnistie, c'est justement le pardon qu'on donne à ceux qui ont commis des crimes. Et l'autre disait tout à l'heure que la Constitution interdit les mouvements politico-religieux, mais aussi il faut dire que la Constitution interdit aussi les élections, donc ça c'est aussi interdit par la Constitution. Mais je ne vais pas me livrer dans cette lancée. Ici donc, on pense que cette amnistie c'est bien, c'est le prix à payer, mais il faudrait que la Cour pénale internationale, qui n'est pas utilisée par cette amnistie, puisse, le procureur notamment de la CPI, puisse continuer à mener des enquêtes pour que les victimes des droits humains, les victimes qui ont commis des actes de la guerre, puissent être rétablies dans leurs droits. Parce qu'il faut dire, c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'heure de guerre, je ne sais pas qui d'autre, ils seront amnistiés, mais ça laisse des blessures très profondes dans la population, et on veut voir que la CPI, qui n'est pas liée par cette amnistie, puisse se saisir de certains dossiers, pour ça que certains seigneurs de guerre puissent répondre de leurs actes.
Et bien oui, en promulguant cette loi, quel sera le sort de Bosco Ntaganda qui est poursuivi par la Cour pénale internationale?
C'est pour ça, vous savez, toujours dans ce même siège, moi, par principe, je suis opposé à tout ce qui est justice extérieure au Congo sur les enfants du Congo. Sur ce principe-là, je suis catégorique. Invité à plusieurs émissions dans ce même lieu, j'ai toujours été opposé à ça. Pour moi, tous nos enfants devraient être ici au pays. Les Lubanga, les Katanga, les Bemba, tout le monde devrait être ici. S'il y a à juger, nous devons juger nous-mêmes. Cette justice internationale un peu mercenaire, où le procureur fout le pied les règles élémentaires de la justice, je ne suis pas du tout d'accord. Eh bien, puisque nous avons un gouvernement qui a pris plaisir à livrer nos enfants chaque fois à la CPI, eh bien, il doit, puisqu'elle est liée par ces accords de Rome, Ntaganda étant devenu son ami aujourd'hui, eh bien, il doit rester logique avec les accords qu'il a signés. Et le livrer à la CPI, moi, je ne sais pas comment il va s'en sortir, comment il va faire.
Oui, il y en a 30 secondes.
Je voudrais quand même placer un petit mot, s'il vous plaît. L'amnistie, ce n'est pas un pardon qu'on accorde à une personne pour les fautes qu'il a commises. Non, ça c'est la grâce. L'amnistie, c'est le fait d'enlever le caractère délictuel à un fait donné. C'est différent, ce sont des choses totalement différentes. Quand on vous gracie par le président de la République, c'est-à-dire qu'on vous pardonne vos péchés, mais vous restez responsable de ça. C'est-à-dire qu'à l'amnistie, on enlève le caractère délictuel à un fait que vous avez causé.
Ça veut dire quoi, caractère délictuel?
Voilà, vous avez pris des armes, la loi définit cela comme une insurrection. Donc la loi dit, l'amnistie dit, nous considérons que ce n'est plus une insurrection, si vous avez été fait lâche. On enlève ça. Donc vous devenez quelqu'un qui ne peut plus être poursuivi pour ce fait-là. Et lorsque l'amnistie, bon, il y a des grands principes de droit que je ne veux pas développer ici, ça ne peut pas être limité sur le plan régional. Ça ne se fait pas, je tiens à le répéter, ça ne se fait pas. On le fait parce que on ne veut pas que Bemba, à qui on reproche le même fait, ici par nos juges d'ici à Kinshasa, si jamais il était libéré par la CPI, il ne pousse pas rentrer au pays. C'est grâce à ça qu'on l'a maintenu en dehors du pays pendant si longtemps.
Et Diana Dikoupa, en 30 secondes, selon vous, qui sera exactement amnistié?
Bon, en fait, l'amnistie concerne tous ceux qui sont au nord Kivu et au sud Kivu qui ont pris les armes, c'est-à-dire quoi? Les membres du CNDP et des autres mouvements armés qui ont pris les armes contre leur pays. Ils sont, comme Bellard vient de le dire, qu'ils ne seront plus poursuivis pour avoir pris les armes, mais quand ils ont pris les armes, ils ont commis des crimes de guerre. Pour ces crimes de guerre, ils seront poursuivis pour cela. Mais ils ne sont pas pour ces crimes-là. Mais c'est pour dire aussi que Jean-Pierre Bemba n'a jamais été poursuivi par le Congo et il ne se trouve pas à la haie parce que le Congo le veut et il n'a jamais été maintenu à l'extérieur par le Congo parce qu'il est parti librement. Le Sénat congolais lui a même donné un ultimatum pour venir, donc personne ne l'a maintenu à l'extérieur.
Si, là, non, le procureur général a été instruit pour ouvrir un dossier contre Bemba disant qu'il a détenu le ministre. C'est un fait qui est considéré comme de l'insurrection. Et voilà. Tout comme Bourdia Congo. On dit non, voilà, ils se sont attaqués à la puissance de l'État, à la police. Ils se sont autoproclamés puissance publique dans certains territoires. C'est de l'insurrection. C'est sur base de ça qu'on est en train de condamner les gens de Bourdia Congo, Bakongo. Alors, les gens qui nous écoutent, tous les Congolais doivent savoir que ce gouvernement traite les Congolais de deux manières discriminatoires et qu'il est mieux dans ce pays-là de prendre des canons contre le gouvernement, vous serez amnistié un jour. Si vous prenez les simples pierres pour lutter sur la police, vous serez mis en prison. C'est ça la leçon qu'on en tire.
Merci Belangui. Nous passons au troisième thème de notre débat. La réforme des entreprises publiques, l'intersyndicale a demandé le 13 mai dernier à Kinshasa, à la ministre du portefeuille, de s'asseoir à l'exécution de la décision du Premier ministre sur la conversion notamment des entreprises publiques en sociétés commerciales. Ces décrets, 5 au total, portent sur des mesures transitoires devant transformer les entreprises publiques en sociétés commerciales, établissements publics ou encore services publics. D'autres entreprises publiques, selon le même décret, seront dissoutes, d'autres encore liquidées. Ces mesures, selon un communiqué de presse de la primature, visent le désengagement de l'État et, en perspective, la fin du monopole d'État dans la gestion de ces entreprises pour leur efficacité. Selon les travailleurs, cette forme de privatisation sous-entend la réduction massive des employés. On écoute le président de l'intersyndicale, Saint-Florien Dounia, au micro de Daniel Tambinzoni.
On a fait voir Mme du Travail que, au départ, le travail n'a pas été impliqué dans le processus depuis 2002. Nous avons pensé demander au Premier ministre qui est auteur des décrets qui est relatif du pouvoir suspendre les décrets et de faire ensemble avec nous l'état des lieux de la question pour examiner ce qu'il faut faire avant de pouvoir passer à l'exécution.
En réponse à ces préoccupations, la ministre a fait savoir que la réforme entamée depuis 2002 avec la création du COPIREP, le désengagement de l'État ou encore la privatisation est un processus de longue haleine. Il ne signifie pas non plus dégraissage massif ou licenciement sauvage des travailleurs. Madame Janine Mabunda est au micro de Daniel Tambinzoni.
Il faut que les gens retiennent le message, la réforme n'est pas contre les travailleurs, elle est avec les travailleurs. La réforme aujourd'hui, ce n'est pas la privatisation demain des entreprises publiques parce qu'il y a des préalables contenus dans l'ordonnance loi mère, pratiquement l'article 3, qui dit que le désengagement est soumis au préalable suivant, l'évaluation du patrimoine de l'entreprise et les modalités de sa valorisation. Au jour d'aujourd'hui, aucune entreprise n'a fait ça.
Oui, Diana Gikoupa, je rappelle que vous êtes directeur des publications du quotidien L'Avenir, paraissant à Kinshasa. Et comprenez-vous les inquiétudes des syndicalistes?
Absolument pas. Absolument pas. Aujourd'hui, je vais commencer par un exemple avant de vraiment. Si vous prenez un agent qui, un technicien, un spécialiste, un expert du domaine de communication, vous lui posez la question, vous préférez travailler à une entreprise de communication pour ne pas faire la publicité privée, ou bien vous restez à l'OCPT. Sans doute, son choix sera clair, c'est d'aller dans l'entreprise privée, ce qui veut dire que là, il y a bonne gestion, il y a meilleures conditions de travail. Mais lorsque vous demandez aux gens, on dit aux gens des entreprises publiques, dont l'OCPT par exemple, qu'il faut telle réforme pour que votre entreprise arrive à produire, ils vous disent non. Donc pourquoi vous voulez, et ils crient déjà à la privatisation. Jusque-là, ces entreprises sont déjà privatisées par qui? Par le comité de gestion et par le comité de gestion des syndicalistes, ils trouvent leur compte. C'est déjà leur petit ligablo. Cherchez aujourd'hui à leur imposer des conditions qui vont faire qu'ils doivent devenir des entreprises commerciales, c'est-à-dire quoi? Avec leurs recettes, produire et améliorer les conditions, c'est leur trop demander parce que leur propre assiette individuelle risque de se voir rétrécir. Donc, il faut laisser les entreprises telles qu'elles sont aujourd'hui comme de petits ligablos où on va ceci pour acheter du sel, pour acheter ce produit. Donc, comment vous pensez qu'un État, qui est l'État propriétaire, crée une entreprise pour tout simplement payer le personnel et c'est tout, ne tire aucune dividende de cette entreprise-là. Et les travailleurs, lorsqu'on voudrait répondre, ceux qui se plaignent, lorsque vous allez voir les gens de l'Atra, de ceci, de cela, ils sont dans la rue pour se plaindre contre les mauvaises conditions de travail, les mauvais salaires. Mais lorsqu'on dit améliorer pour que vous puissiez vous-même produire cet argent, améliorer vos conditions de travail, dit non, et les syndicalistes, et ces syndicalistes, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de quelques délégués et que ce n'est pas généralement l'opinion de tous les travailleurs. Ou alors, si tous les autres travailleurs réagissent dans le même, on commence par les manipuler en leur faisant brandir le spectre de la privatisation et du dégraissage, et alors tout le monde prend peur et on dit non, il ne faut pas la réforme, il faut garder le statu quo.
Oui, Nicodème Bakoleta, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la radio-télévision Graben Beni au Nord Kivu. Cette réforme, plutôt, pourra-t-elle rendre les entreprises congolaises viables?
je partage tout à fait le point de vue de mon prédécesseur. En tout cas, je partage et marie toutes ces
questions.
Il faut dire que beaucoup d'entreprises connaissent des problèmes depuis même l'indépendance. Hein. On a été voir certaines entreprises même de production de matières premières. Et toutes les installations, toutes les maisons sont celles qui ont été construites à l'époque coloniale. Et depuis tout ce temps jusqu'aujourd'hui, on a construit aucune maison. Et je pense alors que la réforme des entreprises publiques, c'est plus qu'une nécessité pour que les entreprises puissent répondre aux besoins de la population.
Oui, Bélard Mouilly, vous êtes directeur général de la télévision Africa TV, émettant depuis Kinshasa. Les inquiétudes des travailleurs ne sont-elles pas dues à un déficit des communications de la part du gouvernement?
Cela est possible, hein, cela est possible, mais il y a peut-être un problème. Sans forcément remettre le principe qui a été dicté par le Premier ministre dans son arrêté, il faut même prendre en compte les inquiétudes de ces travailleurs, essayer de les apaiser. Parce qu'on peut leur poser certaines questions, ça va de soi. L'entreprise n'a pas qu'un rôle commercial. Il y a aussi des entreprises de l'État qui ont un rôle social. Vous comprenez? Par exemple, si nous prenons les entreprises de messagerie, celles qui permettent aux gens d'envoyer des lettres aux autres personnes, comme la poste, ici comme la poste par exemple, qui ne peuvent s'installer que là où il y a le bénéfice. Eh bien, mais la poste n'a pas à suivre le bénéfice, forcément. La poste peut s'installer dans les villages les plus reculés pour rendre un service social à la population. Ça, c'est important. Pourquoi le CPT ne marche pas? Est-ce le fait de le rendre une société commerciale qui va permettre que la société puisse bien marcher? Juste à côté de nous, Rwanda, celle marche correctement. Il n'est pas devenu une société commerciale pour autant. Vous avez fait une société commerciale. Elle fonctionne, elle fait faillite. Qu'est-ce que vous faites? On sera obligé de dissoudre, de liquider la plupart des sociétés. C'est parce qu'ils ont fait faillite. Ou on va les récapitaliser encore. Je pense qu'il y a beaucoup de questions comme ça qu'on peut se poser pour voir si le Premier ministre, les décisions qu'il a prises, ont vraiment été bien mûries. Peut-être elles l'ont été. Mais est-ce que il n'y a pas que ce qu'on peut améliorer pour pouvoir tranquilliser un peu les travailleurs qui s'inquiètent?
Et vous proposez quoi?
Ce que je propose, c'est qu'il faut faire la part des choses. Il y a des entreprises qui peuvent être transformées en entreprises commerciales, il y en a qui peuvent même être privatisables. Je vais même rappeler quelque chose d'assez compliqué ici. Pendant la campagne électorale dans ce pays, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, je le cite un peu beaucoup aujourd'hui, avait proposé de privatiser le secteur énergétique. L'actuel DGA de la SNEL a ameuté la foule dans la ville ici, dans les médias, pour dire « Non, il propose de privatiser la SNEL, c'est dangereux pour le pays, on va dégraisser dans les entreprises. » Et qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On a donné tort à Bemba pour rien alors.
Oui, Diane, en 30 secondes, nous savons tous que la manière dont l'État gère ses entreprises est souvent remise en cause, parce qu'en fait, c'est l'État qui gère ses entreprises. Et ces réformes pourront-elles produire des résultats escomptés si l'État ne modifie pas son comportement vis-à-vis de ses entreprises?
Oui, mais tout à fait. Il faut que, dans ce qu'on appelle réforme, et l'État aussi se remet en cause.
En 10 secondes.
Oui. Là où il avait beaucoup plus d'implication, il veut se désengager. C'est ça, donc l'État lui-même s'est déjà remis en cause par rapport à ses deux pour ne viser que l'intérêt de l'entreprise et donc des travailleurs. C'est donc étonnant que les travailleurs pour qui on voudrait que la situation s'améliore puissent être le premier à dénoncer, alors qu'ils seront le premier demain à entrer dans la rue pour revendiquer les bonnes conditions de travail et de vie.
Oui, Nicodème Bacoleta, faites-vous foi à ces réformes qui sont initiées par le gouvernement?
Oui, plusieurs fois, mais il faut que l'on commence d'abord par changement de mentalité. Le changement de mentalité est très important pour que le pays se redresse, pour que les entreprises puissent bien marcher. Alors ça, c'est très important parce qu'on peut bien mener des réformes, mais tant qu'on n'a pas changé de mentalité, nous allons connaître le même. C'est pourquoi, moi, je tiens à souligner le changement de mentalité comme un facteur très important si on fait le redressement aussi des entreprises. Mais les réformes, nous en voulons, nous en souhaitons, c'est l'unique moyen, à mon sens, pour le redressement des entreprises au Congo.
Oui, mais là, oui, quand vous avez un mot à ajouter.
C'est rectificatif. J'ai parlé de Rwanda Cell tout à l'heure. C'est Rwanda Cell, plutôt, je voulais dire. Quel est l'équivalent de notre CPT ici?
Ok, merci. C'est avec vous que nous mettons fin à cette émission. Merci à Paul Badianyama qui était à la technique et Jean-Claude Toumba qui a réalisé pour vous cette émission, assisté d'Alain Hirung et Samuel Kachak. En leur nom, Guy Maté vous dit merci et vous souhaite un excellent week-end sur Radio Okapi.